Les pieds sur terre, Sonia Grönlund. Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre comme les choses arrivent.
De quoi allez-vous parler en famille, si vous en avez, le soir de Noël, si vous le fêtez, entre 6 perdieux maximum? Quelles seront les dominantes cette année dans la boîte à sujets qui fâche? Allez-vous unanimement célébrer la naissance du Christ? Quelque chose me dit qu'il y a un pangolin qui va lui voler la vedette. Et tout porte à croire que la discussion ne sera pas facile et qu'il y a des postillons qui vont valser. Car si on en croit une étude réalisée en février 2019 par l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès et Conspiracy Watch, un Français sur 5 serait d'accord avec au moins 5 thèses complotistes. Le sondage ne dit pas combien sont d'accord avec une seule théorie, comme la Terre est plate par exemple et il y a des gens qui vivent à l'intérieur. Mais il précise que la plus partagée des thèses dites complotistes est sans nul doute liée à l'épidémie. En effet, 43% des sondés sont d'accord avec l'idée que, je cite, « le ministère de la Santé serait de mèche avec l'industrie pharmaceutique pour cacher au grand public la réalité sur la nocivité des vaccins ». Fin de citation. Une variante plus hardcore consiste à affirmer et à croire que l'épidémie du Covid servirait à la mise en place d'une dictature 3.0 organisée par Bill Gates pour nous vendre des vaccins et nous injecter un gel nanotechnologique destiné à nous identifier numériquement grâce à la 5G, bien sûr. La question consiste donc à savoir comment vous allez aborder ces sujets avec la personne sur 5 qui sera statistiquement présente le soir de votre réveillon. Un professeur de psychologie sociale à l'Université libre de Bruxelles, Olivier Klein, donne quelques conseils de bon sens dans Libération. Il est primordial, dit-il, de s'écouter et de créer un terrain commun, de commencer la discussion en trouvant ce qui nous rassemble pour créer de l'empathie. Reconnaître, par exemple, que l'industrie pharmaceutique peut effectivement avoir des conflits d'intérêts ou que le gouvernement n'a pas géré cette crise à la perfection. Et ensuite, s'armer de patience. Tout de suite donc, dans les pieds sur terre, pour vous préparer aussi au repas de fête, on va voir quel effet ça fait sur le long terme d'avoir des parents complotistes qui croient par exemple que Barack Obama est un reptilien humanoïde qui a infiltré les élites internationales pour dominer le monde et anéantir les humains. Je vous laisse trouver le terrain commun. Ces deux histoires, tout de suite, sont racontées par Anna Benjamin.
Je m'appelle Camille, j'ai 27 ans et je suis aide-soignant. Voilà, je vis dans Lyon pour l'instant. Alors mon père, je le décrirais comme une personne très intelligente, un peu barrée. À la base, il est traducteur, il est néerlandais. Donc il traduit français, anglais, espagnol, etc. Ensuite, il a été plasticien, donc sculpture, peinture, tout ça pendant un certain temps. Et puis sinon, il travaille dans le bâtiment aux Pays-Bas, il a son entreprise. Voilà. Alors mon enfance avec lui c'était un peu particulier dans le sens où déjà mes parents sont séparés quand j'avais 5 ans. Nous on vivait avec notre mère, avec mon frère, on vivait en France, donc ici en Bourgogne, en Lyon. Et mon père lui était aux Pays-Bas, donc c'est vrai qu'on avait quand même, on va dire qu'on a été plus élevés par notre mère et que notre père a tenu plus... un rôle amical, on allait le voir une fois de temps en temps, c'est un peu les vacances quoi, c'est un peu papa cool. Et puis après, par contre, quelqu'un de complètement obsessionnel par rapport à tout ce qu'on peut qualifier de complotisme quoi. Mon père me disait clairement que le 11 septembre c'était organisé par Bush, le gouvernement américain, pour pouvoir aller derrière faire la guerre et puis faire la guerre contre le terrorisme et pour récupérer du pétrole. Après il y avait des choses, bon, les extraterrestres, ils sont déjà sur Terre, on est contrôlés. Après les questions vaccinales qui sont peut-être venues un peu plus tard, les chemtrails, donc le projet ARP, donc une espèce de truc militaire qui sert à modifier le temps, causer des sécheresses, des intempéries, des choses comme ça. Alors les chemtrails, ce serait en fait des particules laissées dans le sillon des avions. Donc on voit des avions qui font des traces dans le ciel et d'autres pas. Ce serait le premier argument entre guillemets pour dire que bah regarde, tu vois, celui-là il en fait pas, mais les autres laissent des sillons derrière eux parce qu'ils lâchent ceci, ils lâchent cela, donc ce serait des nanoparticules, ce serait des trucs cancérigènes et je suis forcé d'y croire, et puis ils montrent des vidéos sur YouTube de l'époque où il y avait déjà pas mal de complotistes qu'on pouvait trouver sans souci. Je pense que c'est pas pour rien qu'il y a des complotistes, hein. Ça, c'est des théories qui sont complexes, qui nécessitent beaucoup de recherches si jamais on veut les démonter. Et encore, il y a énormément de choses sur lesquelles en fait on peut pas trouver de réponse. Et c'est aussi ce qui fait entre guillemets la crédibilité et je pense la force du mouvement. Donc non, moi quand j'étais enfant, je croyais 100% de ce que me disait mon père, surtout que par exemple pour l'histoire du 11 septembre qui aurait été organisée par les États-Unis, moi mon père me le présentait comme une vérité qu'on nous cachait, qui était pas... Voilà, forcément, les États-Unis n'avaient pas envie que ça se sache. Moi, j'étais persuadé qu'on montait. Après, je me disais, ça ne me sert à rien d'aller essayer de persuader des gens qui ne vont pas me croire. Ça a pu m'arriver, ouais, d'en parler avec des gens. Après, je ne suis jamais allé loin quand j'ai vu que les gens ne pouvaient pas l'entendre. Très bien. Je ne vais pas non plus insister, quoi. J'ai toujours su que c'était une pensée minoritaire. Alors, je sais pas trop à quel âge j'ai commencé à me poser des questions par rapport à ce que mon père me racontait. Je dirais que je devais avoir, 10 ans ou un petit peu plus. C'est grâce à mon frère. C'était quand il y avait eu justement des images qui avaient été... des photomontages sur le l'acte de naissance de Barack Obama quand il a été élu président. C'est mon frère qui a réagi, on était ensemble face à mon père, en disant « mais ça va pas, c'est complètement n'importe quoi », parce que là il s'agissait quand même de dire que Barack Obama était un reptilien, d'après un acte de naissance qui aurait été falsifié ou quelque chose comme ça. C'est un modèle pour moi, mon frère, peut-être plus que mon père d'ailleurs, et je pense que c'est la première fois que j'ai un peu dû laisser mon libre arbitre juger. Et que je me suis dit non, là, c'est pas possible. Enfin, mon frère, les arguments qu'il lui exposait étaient plus valables que ceux de mon père en soi, pour moi. Je crois que c'est la première fois que ça arrivait. Et puis après, mon frère a commencé à peut-être à faire des recherches sur ce qu'était le complotisme, voyant mon père dans tous ces trucs-là. Il y a des sites qui regroupaient les fausses informations avec des explications. Je crois que c'était Hoaxbuster, ça s'appelait, rassemblait toutes ces espèces d'infox, et après moi ça a été du doute systématique, parce qu'il y a plein de choses en fait qui au final me sont revenues plus tard de ce que mon père me disait. Je me disais mais attends, mais peut-être que là-dessus il y a aussi peut-être que je me trompe, peut-être qu'en fait c'est-à-dire que tout ce que je pouvais trouver un petit peu improbable ou qui me semblait un peu bizarre, qui sonnait étrange, ou alors il y avait trop de... Il faut chercher des réponses, regarder à qui profite le crime. J'ai fait mes recherches et j'ai essayé d'être le plus objectif possible, quoi, on va dire. Et après, j'ai un peu découvert le poteau rose, quoi. Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'on m'avait dit qui étaient peut-être à remettre en question et que mon père était quand même un peu barré. J'ai pas forcément réagi. Pour moi, mon père, il avait plutôt un pétocasque. Et c'est quelque chose qui pouvait se retrouver un peu, moi, de manière générale, dans ma vision de lui. Voilà, un peu, on va dire, dans les étoiles, quoi, la limite de la psychose. Des espèces de délires plutôt maladifs, ouais, plutôt pathologiques. Après, à l'adolescence, moi, je me suis un peu éloigné de lui pendant 4 ans et des brouettes. Donc là, je lui ai pas parlé du tout. Je pense que mon père a un peu... reclus aussi, entre guillemets, dans un monde pendant un certain nombre d'années sur son ordinateur, justement. Je pense parce que moi je le voyais peu, mais je pense que quand on n'était pas avec lui, je peux bien l'imaginer passer des jours et des nuits avec sa tasse de café sur un écran dans le noir à refaire le monde, quoi. fait, à l'époque, le complotisme, c'était quelque chose qui n'était pas connu comme ça l'est aujourd'hui. C'était même pas quelque chose dont on parlait, à part si on connaissait quelqu'un qui était là-dedans ou qu'on l'était soi-même. J'ai découvert ce mot par mon frère du fait de la situation de mon père. Alors, est-ce que le Covid a relancé ces histoires de complot? Je pense que ça va même un peu au-delà de ça. C'est-à-dire que bon, forcément, le Covid, je pense que n'importe qui côtoie un complotiste peut bien s'imaginer que c'est de la bonne essence, c'est du bon gasoil. Le coronavirus, il y a plein de choses à apprendre là-dedans, notamment au niveau de la gestion, etc. C'est comme si ça avait permis à tous les gens qui étaient complotistes depuis 20 ans, mais qui étaient un peu dans l'ombre parce que vraiment marginaux par rapport au reste, de donner une espèce de crédibilité, en fait. Tout à coup, ils se sont dit « Ah, bah vous voyez, c'est ce qu'on vous disait depuis 20 ans. Maintenant, les gens commencent à se rendre compte. » Donc, je pense que ça les conforte encore plus dans leurs idées.
It's important to understand what the 5G is doing and what they say it's doing. We're told on the IEEE beamforming document.
Bah là par exemple là, je suis sur Facebook, sur la page de mon père. Première chose que je vois, youtube.com, des nanoparticules sur les écouvillons, point d'interrogation. Là on a une vidéo qui s'appelle 5G Apocalypse, ça commence très bien, 2019. Alors on va parler des ondes, des micro-ondes, une menace existentielle pour la planète et le monde. Ça dure une heure et demie, mais ça doit être une heure et demie dans laquelle... On doit avoir 5 informations à la minute, donc ça commence à devenir compliqué au bout d'un moment de vérifier toutes les informations, quoi. Pour nous résumer la situation, alors en haut de la pyramide, on a 1% qui contrôle le monde et ne veulent rien lâcher. En dessous, on a 4% qui sont les marionnettes des 1%. Après, on a 90% qui dorment encore ou qui ont peur. 5% qui savent et qui veulent éveiller les 90%, donc ça c'est mon père. Et les 1% qui ne veulent surtout pas que les 5% éveillent les 90%, donc pays de moutons. Voilà, ça c'est un petit schéma qu'il y a sur le Facebook de mon papa, très sympathique. Bon, je me documente aussi pour un peu prévoir ce qu'il va pouvoir me dire. Et ça m'amuse aussi de voir un peu, tiens, ça je pense qu'il va adhérer, ça je pense moins. C'est un peu un jeu, quoi. De manière logique, je lui démontre que son raisonnement ou son idée est ridicule. Ou alors qu'elle n'est juste pas possible. Vraiment, il faut que ce soit de la logique. Parce que c'est quelqu'un d'intelligent qui sait reconnaître. Et si je le mets sur la bonne voie, il peut se rendre compte que ce qu'il dit est déplacé ou erroné ou improbable. Ou clairement, c'est criant à quel point c'est faux, quoi. En mettant des fois une seule chose en perspective, je repense à l'histoire des 60% d'autistes qui naissent aux États-Unis à cause des vaccins. Voilà, il faut pas longtemps pour se rendre compte que oui, le chiffre est quand même... Et d'ailleurs, je me demande comment la personne qui a publié ça peut se penser crédible à un moment ou à un autre, quoi. Donc, pour moi, oui, mon père est clairement complotiste, et puis un complotiste de la première heure. Je pense que, entre guillemets, si je peux dire, les nouveaux arrivants sont des petits joueurs. Je pense qu'eux-mêmes, ils pourraient être déstabilisés par le flot d'informations donné par mon père, ouais. Mais ça complique quand même vachement le dialogue, dans le sens où déjà moi j'ai une appréhension systématique quand je vais peu communiquer avec lui, parce que je sais que la moindre conversation qu'on peut avoir est susceptible de dévier vers ça. C'est-à-dire que dans une conversation, si ça finit pas par arriver sur le sujet d'un complot ou d'un autre, c'est vraiment que je m'en suis très bien tiré, quoi. Ou alors que juste avant j'ai poussé une gueulante pour lui dire que j'en avais marre de ces conversations et que je voulais pouvoir parler d'autre chose avec lui. Alors il y a un moment où il va rester un peu sur ses positions comme un enfant en disant « Oui, mais en attendant... » Et après, je pense qu'il prend quand même un peu de recul en se disant « Bon, bah, que j'ai raison ou pas, il veut pas l'entendre. » Donc c'est voué à l'échec. Et je pense qu'il est comme ça parce que ça lui procure un sentiment de une espèce de position de guide. Des fois, la dernière fois que je suis allé le voir, j'ai presque eu l'impression qu'il voulait m'embarquer dans une secte, en fait. Me convaincre, petit à petit, de manière insidieuse, comme ça peut se faire, je pense, pour que ce soit efficace. Je peux pas lui en vouloir de penser ce dont il est convaincu. Voilà, quand on est convaincu d'une chose, bah, c'est comme ça, on peut rien y faire, donc je ne vais pas lui en vouloir en soi. Non, je suis plus fatigué, on va dire. Et puis maintenant, quand il va me montrer des vidéos, systématiquement, je dis que j'ai autre chose à faire de ma vie. Et des fois, il pourra peut-être me montrer des choses très intéressantes. Hein. Et c'est vrai que j'ai tendance à aller directement à autre chose.
Je m'appelle Emma, j'ai 28 ans, je vis en Île-de-France où je travaille dans l'informatique comme cadre. Ma maman est une dame qui a un peu plus de 60 ans maintenant. Ça a toujours été une personne cultivée, elle travaille comme infirmière justement, libérale, elle est à son compte. On était... plutôt fusionnelle. Elle m'a toujours énormément couvée. Je suis la petite dernière d'une fratrie. Mes parents ont divorcé quand j'avais 9 ans, à peu près. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours quasiment grandi avec ma mère. J'ai toujours vu quasiment que par son point de vue. J'avais tendance à récupérer et avoir le même avis qu'elle sur tout un tas de sujets, tout un tas de situations. J'évitais même de me faire mon propre avis parce que, comme je mettais ma maman sur un piédestal, je pensais que son avis était le meilleur sur les situations. Alors, quand j'étais adolescente, elle avait une relation avec un homme, donc après son divorce. Cet homme était plutôt complotiste, sous-entendu donc le fait qu'on n'ait pas marché sur la Lune, ou encore qu'on soit tous gouvernés par une secte qui s'appelle les Illuminati, etc. Et donc c'est vrai qu'il passait énormément de temps de ses journées, de son temps libre, à chercher des articles relatant tout ça, chercher d'où on vient, comme quoi ce seraient des aliens qui nous auraient créés, etc., et qu'on ne serait qu'une expérience. Et donc c'est vrai qu'il passait tellement de temps à faire des recherches et à les montrer à ma mère que ma mère a commencé à y croire. Et comme elle a commencé à y croire, ben ça a forcément influencé mon point de vue. Et donc c'est vrai qu'adolescente, moi aussi je me disais, ah ouais, en fait peut-être qu'on est une création d'extraterrestres, etc. quoi. Je me suis rendu compte que c'était faux déjà à partir du moment où je suis partie un peu à l'université et où j'ai commencé à parler avec d'autres gens, à voir d'autres personnes, à avoir d'autres avis, donc vers les coups de 18-19 ans. Le fait aussi d'être rentrée dans l'informatique et d'avoir vu comment est-ce qu'on pouvait créer de toutes pièces des fake news et de faux articles, de faux sites, comment faire ses propres recherches aussi sur Internet, bien chercher, bien se sourcer, etc. Mais j'ai jamais vraiment confronté ma maman sur les divers sujets complots. Et ma maman s'est mise sur Facebook il y a quelques années. Suite au décès de donc son compagnon. C'était pour garder contact avec de la famille, etc., et un peu pour renouer des liens avec d'autres qu'elle avait un peu perdu de vue. Et elle a commencé à regarder tout un tas de vidéos sur Facebook. Alors au début, c'était des vidéos rigolotes qu'elle nous partageait, et puis... La première vidéo, ça a été celle qui racontait que le virus était créé par l'Institut Pasteur, que c'était la ministre de la Santé à cette époque-là qui était donc sous tout ça, qui voulait répandre le virus pour tuer toutes nos personnes âgées, etc. Enfin, voilà. Enfin, le virus, c'était pas vrai, c'était une fake news, que Macron allait nous obliger à nous faire vacciner.
sous-entendre, donc voilà, on aura une puce sous la peau qu'on passera comme, admettons, une carte bleue à l'entrée des bâtiments pour savoir si oui ou non on est vacciné, si oui ou non on a tel ou tel... je sais pas si on a consommé de la drogue, si on a consommé... Enfin, elle m'a dit, lors d'une conversation, ça fait très science-fiction, mais moi j'y crois dur comme fer... Il faut savoir que politiquement parlant, elle n'est pas vraiment pour le parti de Macron actuellement. Ma maman est d'extrême droite. Je sais qu'elle soutient totalement Marine Le Pen et enfin, a voté en tout cas toutes les précédentes élections, soit pour le papa, soit pour la fille. Voilà, elle est totalement d'extrême droite et elle le crierait presque sur les toits, oui. Donc j'avoue que je comprends pas trop son bord politique. Et puis bah moi du coup non, je serais plutôt de gauche. Depuis le début de l'épidémie, on avait tendance à discuter au téléphone. Donc elle me parlait de ses théories sur ce que fait le gouvernement, sur les masques, sur le virus. Elle disait, mais de toute façon, ce virus, c'est qu'une grippe, on s'en fiche. Enfin bon, faut passer outre. Donc enfin bon, je la laissais dire parce que je me disais, si je la laisse déverser un peu tout ce qu'elle pense, peut-être qu'elle finira par revenir à la raison, etc. Et bah, pas forcément. Et en fait, à ce moment-là, elle s'est fâchée avec ma sœur. En fait, ma sœur, elle, les théories du complot, ça la saoule. Elle n'y croit pas du tout. En fait, elle ne souhaite pas du tout en discuter. Ma mère, elle, par contre, elle continuait de déverser tout ce qu'elle avait. Jusqu'au jour où ma sœur en a eu marre et elle lui a raccroché au nez. Et depuis, elle ne souhaite plus du tout lui parler... pour ma part, j'ai continué de parler un peu avec ma mère, et puis un jour j'ai vu un post, c'était suite au reportage Hold Up. C'était pas le reportage en lui-même, c'était une vidéo explicative pourquoi Hold Up était vraiment la vidéo absolue à retenir. J'ai répondu à cette vidéo en disant il y a d'autres moyens de se sourcer que Facebook, et je lui ai envoyé une vidéo qui contrebalance quoi. J'ai voulu débattre cette fois-ci parce que j'en avais marre, elle s'était fâchée avec ma sœur à cause de ça, et elle continuait en fait d'être dans ces pensées-là. Pour moi c'était la fois de trop en fait. C'était effectivement la première fois que je contre-argumentais. Elle a pas trop aimé, elle m'a bloquée sur Facebook. Et voilà, j'ai plus trop de nouvelles après. Le fait que ma maman m'ait bloquée de Facebook, sur le coup, j'étais choquée. Je me suis dit... Alors, il y a eu un petit moment de surprise sous entendre « Ah bon, elle sait faire ça !» Et en fait, après, j'ai eu énormément de colère, en fait. Bon, quelques jours plus tard, elle m'a débloquée. Elle a changé de nom sur Facebook, ni vu ni connu. Alors bon, bah moi je l'ai retrouvée, mais parce que bon, bah enfin, c'est pas juste en changeant nom, prénom sur Facebook qu'on change d'identité en fait. Elle ne m'a pas re-ajoutée en ami, du coup, pensant être incognito. Et du coup, Facebook l'engraine complètement dans ce type de pensée-là. Et en fait, elle ne voit que par ça. Et ce qui est horrible, c'est qu'en fait, ma mère est devenue une extrémiste du complot, en fait. Mais bon, je suis agacée par la situation, plus que triste, en tout cas. J'ai l'impression que le complotisme de ma maman l'éloigne de tout le monde. l'éloigne de moi, de ma sœur, de mon frère. Et en fait, elle s'enferme juste dans, dans ses propos, dans ses pensées, dans... on va dire que ses amis, maintenant, c'est juste les autres complotistes. Et en fait, comme pour elle, bon, on n'a pas ouvert les yeux, finalement, sur ce qui se passe, sur la situation, etc. Le fait qu'on n'adhère pas à ses pensées, ouais, elle se coupe totalement de nous. Et pour elle, c'est juste le virus qui nous éloigne. Mais en fait, non, c'est son comportement qui fait ça. Ce que je vais faire pour Noël, alors actuellement je vais fêter Noël avec ma belle famille. J'avais pas forcément prévu de descendre dans le sud-ouest parce que, étant fâchée, je suis très mal à l'aise vis-à-vis de la situation et donc je sais pas du tout comment réagir et comment me comporter quoi. Enfin, ce que j'aurais besoin, c'est qu'elle ouvre les yeux, et je pense que ce qu'elle a besoin, c'est que j'ouvre les yeux. Donc c'est là où ça va être compliqué pour notre relation de faire comme si de rien n'était. Mais en tout cas, elle reste ma mère et je reste sa fille, donc je pense qu'il y aura sûrement possibilité de réaccrocher une relation dans le futur, quoi. C'était Mes parents, c'est complotiste, un reportage d'Anna Benjamin réalisé par Cécile Lafont. Merci à Camille et à Emma. L'attachée de production, c'est Mélissa Fousse. Notre stagiaire, c'est François Bréus.